matinée.
L'émission 100% rouge et noir,
c'est tous les mercredis à 19h sur 100%.
Avec Debar Automobile, vendeur multimarque depuis 30 ans, à retrouver sur debarautomobile.com.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans 100% rouge et noir autour de la table de ce soir pour débattre le demi de mêlée de l'AS Bressol. Maxime Prat, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Notre journaliste Gilles Gauthier, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et notre invité ce soir, c'est Juan Cruz Maya, l'ailier du stade. Il nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Au sommaire, Gilles, de ce 100% rouge et noir.
Le journal du stade, le débat 100%, Romain Tamac, de retour à l'entraînement collectif cette semaine. Doit-il absolument jouer à Bordeaux dimanche soir? Et puis aucun Français dans la liste des nommés pour le titre de meilleur joueur du tournoi. Est-ce un scandale pour les Toulousains Thomas Ramos et François Cross? Maxime Prat nous donnera son avis d'expert. Et puis enfin, l'interview de notre invité Juan Cruz Maya en deuxième partie d'émission.
100% rouge et noir, le journal du stade.
Un entraînement délocalisé du stade mercredi prochain.
Ouais, les hommes du Gomola se rendront en Ariège, plus exactement à Lavelanet. Rendez-vous à 15h au stade Paul Bergère. C'est le troisième et dernier entraînement délocalisé de la saison.
On connaît le nom de l'arbitre pour le match à Bordeaux dimanche soir.
Oui, il s'agit du Landais Adrien Marbeau. Il sera assisté de Richard Duo et de Jonathan Gasnier.
L'UBB avec ses internationaux contre le stade.
On verra notamment Lucu, Penaud, Bielbiaré, Moefana et deux porteurs. Ils devraient être alignés dimanche soir donc face au Rouge et Noir. Jalibert, qui a repris la course cette semaine, sera trop juste.
100% Rouge et Noir, le débat 100%.
7 mois après son opération du genou, Romain Tamac a repris l'entraînement collectif cette semaine. Le stade doit-il l'aligner dès dimanche à Bordeaux pour la 19e journée du top 14?
Maxime Prat,
non. Non, surtout pas.
7 mois, ça va. Pour revenir décroisé.
Il n'y a pas d'urgence. C'est quoi le souci? Le stade est.
Il y a une urgence, mais elle est déguisée, vous savez quoi? C'est le 8e de finale de Champions Cup.
Contre le Racing.
Voilà.
Donc le stade Toulousain ne peut pas battre le Racing en 8e de finale à la maison sans Romain Tamac.
C'est plus complexe que ça, c'est que Romain Tamac veut jouer absolument ce match et on ne peut pas le balancer directement sur un 8e de finale.
Moi, en fait, comment dire, Romain Tamac, il s'est blessé en août, il s'est fait opérer en septembre, donc il a une rupture des ligaments croisés, blessure qui devient malheureusement
classique
et habituelle chez pas mal de joueurs de haut niveau. Il y a plein d'exemples, on a le dernier en date, Anthony Jelon, qui a une course contre la montre pour reprendre, et on a vu comment ça s'est terminé avec une rechute 2-3 mois après. Romain Tamac, il n'y a pas d'urgence, une semaine d'entraînement collectif pour aller faire un match de haut niveau à Bordeaux. C'est pas possible quand t'as pas joué pendant 7 mois. Il faut au moins.
Alors, moi, je pense de le faire jouer. Pas titulaire, mais le faire rentrer en seconde période à Bordeaux.
Oui,
en fait.
Mais ça, après, quand t'as.
Je parle plutôt ça.
Le problème, c'est que quand t'es remplaçant, tu sais pas quand tu peux rentrer. Si y a quelqu'un qui se pète au bout de 5 minutes et qu'il faut qu'il enchaîne 75 minutes de haute intensité avec une équipe qui va certainement le cibler. Enfin, moi, je trouve que c'est l'envoyer un peu au carton après une semaine d'entraînement collectif. C'est trop peu, une semaine. Quand tu reviens de 7 mois sans jouer, il y a des repères à retrouver, il y a des sensations à retrouver.
Ça veut dire qu'il joue pas le 8ème de finale Champions Cup alors?
Ou le faire reprendre peut-être contre Pau le week-end d'après, moi je suis pas forcément. Moi,
ça contre ça... Pau juste une semaine avant en top 14 et enchaîner une place éventuellement de titulaire en Champions Cup, c'est pas possible, il aura pas joué assez. Ce que je veux dire.
Oui, mais après, moi-même, savoir si lui il veut jouer le 8ème, mais il faut savoir qu'aussi il y a des joueurs qui à son poste sont performants. On en parlait de Malia, on voit Kinghorn en 15, on voit Ramos en 10. Donc si tu vas jouer ton 8ème avec Thomas Ramos en 10 et Kinghorn à l'arrière, il n'y a pas de souci normalement côté stade. Donc moi je pense qu'il faut faire attention avec Romain Tamac, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de à son poste il y a du monde, attention c'est un très bon joueur, je pense qu'il reprendra sa place sans problème, mais qu'il reprenne le 6 avril pour le 8ème ou le fin avril pour le quart, moi je préfère qu'il reprenne mi-avril, il aura fait 3-4 semaines d'entraînement collectif, il aura le temps de reprendre ses repères, un petit match top 14 juste après le 8ème contre le Racing, et il pourra pourquoi pas prétendre pour le quart. Et s'il joue le quart, la demi, la finale, et qu'après il joue les phases finales de top 14, sa fin de saison sera bien remplie, et il aura entre guillemets gagné son pari. Mais là je trouve que c'est quand même un peu tôt de prendre autant de risques, alors que l'effectif du stade, il est tellement pléthorique, et puis sans faire offense au Racingmen, le match Toulouse-Racing en 8ème de Coupe d'Europe à la maison, ça ressemble quand même un match assez déséquilibré, surtout que le Racing à ce moment-là, eux, ça sera peut-être pas leur priorité parce qu'ils seront en pleine course pour aller chercher les 6.
À la peine en championnat.
Et je peux vous dire que s'ils ne se qualifient pas pour les 6, ça serait quand même un sacré affront pour Lancaster qui vient d'arriver au club. Donc
mais moi, je trouve qu'on ne prend pas de risque. On est déjà 7 mois après l'opération. Anthony Gelon, ok, il y avait d'autres obligations.
Mais lui, il avait repris une course contre la montre par rapport à une Coupe du Monde en France, etc.
C'est ça, mais il avait repris, le fait est qu'il avait repris au bout de 6 mois.
Oui.
Là, 7 mois, c'est pas, entre guillemets, déconnant de reprendre 7 mois après la compétition, après une opération des croisés. Et en fait, quelque chose d'assez linéaire, ce serait remplaçant à Bordeaux, titulaire contre Pau, titulaire, 8e de finale, Champions Cup. Là, ça fait quelque chose de progressif. Et qui, en matière de rythme, serait quand même, entre guillemets, l'idéal pour jouer comme il veut faire le 8e de finale Champions Cup, qui est le week-end.
Non, mais là, c'est ce qu'on imagine à l'idéal. Après, ça dépendra aussi de ses sensations cette semaine à l'entraînement. Ça, tout ça, on le sait pas forcément. Mais...
Alors, on nous a dit dans son entourage que jusqu'à présent, les sensations sont bonnes et il n'y a pas eu d'accroc dans la rééducation.
Oui, bon, on disait pareil d'Anthony Gelon. On apprend des choses, des fois, avec le recul, où on nous a dit qu'il y a eu quelques des fois, petits soucis pendant sa rééducation. Et sur le moment, on nous disait que tout allait bien.
Oui, mais au final, ça a bien été.
Oui. Au final, c'est jusqu'à la Coupe du Monde. Oui, jusqu'à la Coupe du Monde. Après, on a vu qu'il y a une petite rechute, mais enfin une grosse rechute.
Oui, mais pas, la rechute, elle n'est pas due à une reprise trop tôt.
On le saura jamais. Malheureusement, on le saura jamais. C'est
si vous reprenez trop tôt, c'est dès les premiers matchs que ça pète. Hein.
Pas forcément. Il n'y a pas forcément de règles. C'est pour ça que du coup, personne n'est capable de le dire. Mais moi, je trouve qu'une semaine d'entraînement collectif, quand t'as pas joué pendant 7 mois, n'importe quelle blessure, une semaine d'entraînement collectif, c'est trop peu avant de faire un match de très haut niveau à Bordeaux.
On verra dimanche. Quelle option aura choisi Hugo Mola qui nous écoute ? Soit l'option Maxime Prat, soit l'option Gilles Gauthier.
Fin de ce débat, messieurs.
L'émission 100% Rouge et Noir, c'est tous les mercredis à 19h sur 100%.
Avec Debar Automobile, vendeur multimarque depuis 30 ans, à retrouver sur debarautomobile.com.
Vous êtes dans 100% Rouge et Noir, on va maintenant parler du tournoi des 6 nations et joueurs toulousains.
100% Rouge et Noir, l'avis de l'expert.
Pas de Français nommé pour le titre de meilleur joueur du tournoi. On trouve l'Irlandais Bundy Aki, l'Anglais Ben Earl, l'Italien Tommaso Menoncello et l'Écossais Duane Van Der Meer. Alors, question simple, est-ce un scandale pour les joueurs toulousains François Cross et Thomas Ramos?
Maxime Prat. Bon, en fait, il faudra en choisir un des deux, mais voilà.
Ouais, scandale. Le problème, c'est que nous, on a encore la vision des deux derniers matchs. Mais le 6 Nations, ça dure 5 matchs. Et on a vu. Pour moi, c'est pas un scandale pour Thomas Ramos, qui a fait certes deux très bons derniers matchs contre l'Angleterre et le Pays de Galles, mais il a pas fait un bon début de tournoi, non. Que ce soit contre l'Italie, l'Écosse ou l'Irlande, notamment. Au poste d'arrière, il était loin de son meilleur niveau. Il a fait deux bonnes prestations en 10, ça y a rien à dire. Il faut savoir que le 6 Nations, c'est 5 matchs. Les 3 premiers matchs de l'équipe de France étaient loin d'être bons. Les 2 derniers sont mieux, il n'y a rien à dire. Donc, sur 4 joueurs, donc, déjà, il y a 5 équipes, donc pas de Gallois, logique. Après, il y a Irlandais, Écossais qui font un tournoi. Les Écossais, un peu comme le nôtre. Moi c'est François Cross qui me gêne.
Il marque 5 essais quand même, l'Écossais.
Voilà. Les joueurs qui sont présents, un Italien qui font un super tournoi aussi, c'est pas des connards. Les joueurs qui sont pas des joueurs qui ne méritent pas d'y être. À qui il fait le gros match destination premier contre second Irlande de France, c'est l'homme du match, il fait un match exceptionnel. Il est énorme, donc à qui pour moi sa présence elle est logique, c'est un Irlandais, ils ont gagné le tournoi. C'est dommage pour François Cross parce que s'ils avaient mis 5 joueurs, je pense qu'il était pas loin, mais
voilà, moi je trouve que
il n'y a pas non plus un énorme scandale sur les joueurs. Sur les joueurs qui y sont, il n'y a pas scandale. Après, c'est sûr que François Cross aurait certainement mérité d'y être, surtout que la France, au final, malgré un tournoi bizarre, a quand même terminé seconde, donc ça aurait été bien de récompenser la deuxième équipe. Quoi.
C'est ça, quand on regarde le classement brut, la France termine deuxième, il n'y a pas un Français dans les 4 nominés, moi ça me dérange. Bundy Aki, ne croyez pas qu'il a fait que des bons matchs, il a été très bon effectivement contre nous. Le reste, ça n'a pas été non plus extraordinaire. Il a fait du Bundy Aki, mais est-ce que ça fait grimper au rideau? J'en sais rien.
Non,
c'est pas des gros matchs, hein. Il ne faut pas idéaliser les autres. Alors, Van der Merwe, moi, il n'y a pas de discussion. Il marque 5 essais. C'est régulier sur tout le tournoi. Là, il n'y a pas de souci. En plus, ça fait un petit moment qu'il est haut niveau. Mais si on se base rien que sur ce tournoi, puisque c'est de lui qu'on parle. Bon, non, je pense que
le débat, c'est François Cross, on est d'accord.
Ben, il y a scandale, franchement. On termine deuxième. Et le meilleur de l'équipe français, qui termine deuxième, je pense que c'est le meilleur français. Ouais. Avec des tâches obscures, en plus, c'est le moment de récompenser. Parce que les dernières en date, les deux dernières années. C'est Antoine Dupont, oui, qui fait rêver, qui est très en vue. Alors, il faut récompenser des joueurs de l'ombre comme ça.
Ce qui se passe avec François Cross, l'exemple de Dupont est très bon, parce que Dupont, une des années, il l'a eu, alors que c'était pas forcément le meilleur.
Mais parce qu'il brillait,
c'est parce qu'il s'appelait
visible.
Dupont.
Non, c'était visible, ce qu'il fait.
Quand t'as un nom comme Dupont, c'est des joueurs... Cross, il a toujours eu un travail, on a toujours parlé du travail de l'ombre. Enfin, moi, je suis désolé, depuis les deux derniers matchs, c'était pas le travail de l'ombre, on voyait que lui sur le terrain. Donc, oui, on l'a vu ballon à main, on l'a vu faire des choses.
Et il y a une grosse partie de travail de l'ombre et je pense qu'il faut récompenser.
Non, mais moi je suis d'accord que ça a été le meilleur français d'ici. En plus, il a été régulier parce que sur les matchs en Écosse et le match contre l'Irlande où la France n'est pas bon.
Voilà, lui, même en Irlande, il est là.
Contre l'Irlande, ben lui, il est bon.
Ouais, ouais.
Alors que la France n'avait pas été. Enfin, c'était peut-être la seule satisfaction du match. Donc, ça aurait été mérité par rapport à sa régularité sur le tournoi.
C'est ça qui doit primer, à mon avis.
Mais
c'est pas des coups d'éclat comme a fait Bundiaki, oui, mais bon, c'est un ensemble qu'on juge.
Non, mais sur Kroos, on peut être d'accord. Après, c'est vrai que je pense que ce qui a fait défaut pour François Kroos, ben, c'est son côté plutôt joueur discret, etc. Si Aldrit fait le même tournoi, il y est. Par exemple, c'est Aldrit, Dupont, des joueurs qui ont un aura médiatique au-dessus, font le même tournoi que Kroos, ils auraient été dans les quatre. C'est là que, c'est sûr que le côté médiatique n'a pas joué en sa faveur, malheureusement pour lui, mais en tout cas, c'est sûr que ça a été le meilleur français du Six Nations.
Fin de ce débat, messieurs, c'est l'heure maintenant de l'interview de Juan Cruz Malia.
100% rouge et noir, le CV de l'invité.
Bonsoir, Juan Cruz Malia.
Bonsoir à tous.
Merci. Ouais, très bien. Merci d'être avec nous. On est honoré de recevoir un Pumas aujourd'hui avec nous. Ton CV rapidement. Ouais, avec plaisir. Ton CV rapidement, tu vas me dire si je me trompe. 27 ans, Juanchi. Tu as commencé le rugby à 15 ans au Jockey Club de Cordoba.
À 5 ans.
5 ans, ah oui.
Ouais.
Donc, tu vois, bien attentif, c'est bien. Tu as débuté chez les pros, chez les Jaguars en 2018.
Oui.
Parfait. Voilà, tu arrives en janvier 2021 au Stade Toulousain en tant que joker médical, vainqueur du top 14 en 2021 et 2023 avec le Stade Toulousain, vainqueur de la Coupe d'Europe, c'était encore la Coupe d'Europe à l'époque, en 2021 avec le Stade Toulousain, évidemment international argentin, Pumas. Alors j'ai pas réussi à voir le nombre de sélections, Juanchi, combien tu en as ?
33,
voilà.
Ouais.
Juanchi, tu as déjà une très belle carrière à seulement 27 ans. Quel est ton plus beau souvenir jusque-là ?
Ouais, merci beaucoup. Mon plus beau souvenir, c'était l'année que je suis arrivé ici. Et depuis 6 mois que j'étais à Toulouse, on était champion de Coupe d'Europe et de top 14.
Ouais.
Donc c'était une année de fou pour moi. Et de changer les pays, changer la culture, apprendre une nouvelle langue et être champion.
Parfait. Est-ce que tu as un regret ?
Ouais, peut-être que c'était les demi de 2022 et surtout les demi contre Castres de 2000 de top 14.
Ouais.
Parce que je pense qu'on était bien positionné pour être champion cette année-là et ouais, on avait perdu contre notre ami Castres.
J'aime bien le mot habillé, effectivement. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué jusque-là ?
Et oui, je pense que je suis obligé à dire Antoine Dupont, parce que oui, bien sûr que tout le monde le connaît, mais après d'être avec lui tous les jours ici, je vois les choses qu'il fait à l'entraînement aussi, et franchement, c'était les meilleurs joueurs du monde. Je pense que ça va être dans les top 3 de l'histoire. Hein.
Ah oui, je pense aussi, effectivement. L'entraîneur ou l'éducateur qui t'a le plus marqué ?
C'était un entraîneur à l'époque, quand j'étais 14 ans, à Jockey Club Córdoba, qui c'est mon club d'origine.
Oui.
Et ça s'appelle Nicanor Rizzo Patron. Et c'était lui avec qui j'ai commencé à faire des choses dans le terrain. Il m'a donné un peu la liberté de jouer un peu à ma forme et d'essayer des trucs que maintenant je les fais aussi. Donc c'était lui qui m'a fait un peu la confiance depuis que j'étais petit.
D'accord. L'anecdote que tu n'as jamais osé raconter ?
L'anecdote, ouais, on va dire, c'était avant la finale des Coupes d'Europe. Et j'étais avec les matins avant la finale, j'étais avec Thibaut Flamont.
Oui.
Et on avait fait une promenade par l'hôtel pour décompresser un peu la situation, en train de voir du mat aussi.
Mmh.
Et on avait parlé, t'imagines si cet après-midi on est champion d'Europe, et t'imagines si on marque un essai et tout ça. Et oui, après, on avait gagné, on était champion. Et un peu l'anecdote, c'était que dans les derniers racks, on se retrouve au sol les deux. Et on savait qu'on était champion parce que ouais, il faut juste taper les ballons dehors le terrain et on était champion. Donc on s'est retrouvé au sol et on s'est mis en bon câlin. Et on a dit, ok, c'est là qu'on avait parlé ce matin, c'est vrai.
Génial.
100% rouge et noir, le c'est vrai, c'est pas vrai.
Trois affirmations sur toi, Juanchi, tu vas nous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Juan Cruz Maia, okay. Il a joué la demi-finale de Coupe du Monde avec l'Argentine contre la Nouvelle-Zélande avec la main cassée.
C'est vrai.
Ah ouais, mais comment on fait ça? Avant le match, hein, tu l'avais cassé, c'est ça hein?
Non, c'était dans les quarts de finale.
Oui.
Contre les Pays de Galles, c'était dans les premières mi-temps, à 30 minutes. J'avais fait un plaquage et je pense que j'ai choqué la main contre les coudes d'un Gallois.
Ouais.
Et j'avais senti quelque chose là-bas. Et donc j'avais lui dit à les docs, à les kinés de l'équipe d'Argentine, on a fait un scan au mi-temps, et là au stade. Et oui, c'était cassé. Donc on avait essayé de faire une strap pour continuer. Oui, j'avais joué tous les matchs des quarts de finale avec tous les matchs, tous les deuxièmes mi-temps avec la main cassée.
Ouais.
Et oui, comme on avait gagné, c'était la demi. Et bien sûr que oui, que j'avais dit ouais, si j'ai pu jouer un mi-temps comme avec la main comme ça, je pense qu'une demi-finale de Coupe du Monde, que ça arrive pas souvent, je pense que j'ai pu le faire. Et oui, c'était ça l'histoire.
Waouh, ben chapeau, félicitations. Juan Cruz Maia, c'est le futur capitaine des Pumas.
Non, je ne sais pas, je ne pense pas. Maintenant, c'est Julián Montoya, on est très contents, on a commencé un nouveau cycle avec Felipe Contempomi comme manager, comme head coach. Et oui, lui, c'est notre capitaine et après, il y a des gros joueurs dans l'équipe qui peut être aussi capitaine si Julián il est pas présent.
Effectivement. Dernière affirmation, Juan Cruz Maia, il va finir sa carrière au Stade Toulousain.
Ouais, j'espère. Et je peux pas affirmer ça, mais oui, c'est un rêve de continuer ma carrière ici et de faire toute ma carrière dans un seul club ici en France. Et surtout que c'est clair, c'est le Stade Toulousain.
On sent en tout cas que tu t'éclates dans cette équipe depuis que tu es arrivé à tous les postes. On sent que vraiment tu t'amuses vraiment beaucoup dans cette équipe. Hein.
Oui, je profite beaucoup de la forme des joueurs, la philosophie des joueurs qui a ces clubs-là. Je me sens très très bien. Et après, dans les ADN du stade, c'est de gagner des titres. Et c'est un peu... Et une chose qu'on joue pour ça, tu vois, c'est on joue pour gagner, on joue pour jouer bien rugby aussi. Et ici, il y a les deux choses. On joue, je pense qu'on joue bien rugby, on a une philosophie de jeu de tenir les ballons. Et après aussi, on gagne des titres. Donc, oui, j'espère continuer ici l'aventure avec le Stade de Lausanne.
Merci beaucoup, Juanchi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On s'est régalé avec toi, Juan Cruz Maia, avec nous dans 100% Rouge et Noir.
Gilles, les prochains rendez-vous rugby.
C'est dimanche soir, dès 20h30, la 19e journée du Top 14. Le stade se déplace à l'UBB. Le coup d'envoi est à 21h, mais donc dès 20h30 avec Nicolas Calvé. Et puis, donc 100% Rouge et Noir, mercredi prochain, après le journal de 19h.
Merci à tous.
Bye bye.
Bonne soirée.
L'émission 100% Rouge et Noir, c'est tous les mercredis à 19h sur 100%.